Chapitre 8. Un coin de forêt. Une brèche a toujours sa cause et son utilité. Voici comment et pourquoi celle qui se trouve entre la tour aujourd'hui dite de Mademoiselle et les écuries avait été pratiquée. Dès son installation à cinq signes, le bonhomme d'Haute-Serre fit d'une longue ravine, par laquelle les eaux de la forêt tombaient dans la douve, un chemin qui sépare deux grandes pièces de terre appartenant à la réserve du château, mais uniquement pour y planter une centaine de noyers qu'il trouva dans une pépinière. En 11 ans, ces noyers étaient devenus assez touffus et couvraient presque ce chemin encaissé déjà par des berges de 6 pieds de hauteur et par lequel on allait à un petit bois de 30 arpents récemment acheté. Quand le château eut tous ses habitants, chacun d'eux aima mieux passer par la douve pour prendre le chemin communal qui longeait les murs du parc et conduisait à la ferme que de faire le tour par la grille. En y passant, sans le vouloir, on élargissait la brèche des deux côtés avec d'autant moins de scrupules qu'au XIXe siècle, les douves sont parfaitement inutiles et que le tuteur parlait souvent d'en tirer parti. Cette constante démolition produisait de la terre, du gravier, des pierres qui finirent par combler le fond de la douve. L'eau, dominée par cette espèce de chaussée, ne la couvrait que dans les temps de grande pluie. Néanmoins, malgré ces dégradations, auxquelles tout le monde et la comtesse elle-même avaient aidé, la brèche était assez abrupte pour qu'il fût difficile d'y faire descendre un cheval et surtout de le faire remonter sur le chemin communal. Mais il semble que dans les périls, les chevaux épousent la pensée de leur maître. Pendant que la jeune comtesse hésitait à suivre Marthe et lui demandait des explications, Michu, qui du haut de son monticule avait suivi les lignes décrites par les gendarmes et compris le plan des espions, désespérait du succès en ne voyant venir personne. Un piquet de gendarmes suivait le mur du parc en s'espaçant comme des sentinelles et ne laissant entre chaque homme que la distance à laquelle il pouvait se comprendre de la voix et du regard, écouter et surveiller les plus légers bruits et les moindres choses. Michu, couché à plat ventre, l'oreille collée à la terre, estimait, à la manière des Indiens, le temps qui lui restait par la force du son. « Je suis arrivé trop tard, » se disait-il à lui-même. « Violette me le paiera. A-t-il été longtemps avant de se griser? Que faire ?» Il entendait le piquet qui descendait de la forêt par le chemin passant devant la grille et qui, par une manœuvre semblable à celle du piquet venant du chemin communal, allait se rencontrer. « Encore 5 à 6 minutes !» se dit-il. En ce moment, la comtesse se montra, Michu la prit d'une main vigoureuse et la jeta dans le chemin couvert. « Allez droit devant vous ! Mène-la, » dit-il à sa femme, « à l'endroit où est mon cheval, et songez que les gendarmes ont des oreilles !» En voyant Catherine qui apportait la cravache, les gants et le chapeau, mais surtout en voyant la jument et Gothard, cet homme, de conception si vive dans le danger, résolut de jouer les gendarmes avec autant de succès qu'il venait de se jouer de Violette. Gothard avait, comme par magie, forcé la jument à escalader la douve. « Du linge au pied du cheval ? Je t'embrasse !» dit le régisseur en serrant Gothard dans ses bras. Michu laissa la jument aller auprès de sa maîtresse et prit les gants, le chapeau, la cravache. « Tu as de l'esprit, tu vas me comprendre, » reprit-il. « Force ton cheval à grimper aussi sur ce chemin, monte-le à poil, entraîne après toi les gendarmes en te sauvant à fond de train à travers champs vers la ferme, et ramasse-moi tout ce piquet qui s'étale, » ajouta-t-il en achevant sa pensée par un geste qui indiquait la route à suivre. « Toi, ma fille, » dit-il à Catherine, « il nous vient d'autres gendarmes par le chemin de cinq signes à Gondreville. Élance-toi dans une direction contraire à celle que va suivre Gothard et ramasse-les du château vers la forêt. Enfin, fais en sorte que nous ne soyons point inquiétés dans le chemin creux. » Catherine et l'admirable enfant qui devait donner dans cette affaire tant de preuves d'intelligence exécutèrent leurs manœuvres de manière à faire croire à chacune des lignes de gendarmes que leur gibier se sauvait. La lueur trompeuse de la lune ne permettait de distinguer ni la taille, ni les vêtements, ni le sexe, ni le nombre de ceux qu'on poursuivait. L'on courut après eux en vertu de ce faux axiome « il faut arrêter ceux qui se sauvent », dont la niaiserie en haute police venait d'être énergiquement démontrée par Corentin au brigadier. Michu, qui avait compté sur l'instinct des gendarmes, put atteindre la forêt quelque temps après la jeune comtesse que Marthe avait guidée à l'endroit indiqué. « Cours au pavillon, » dit-il à Marthe. « La forêt doit être gardée par les Parisiens. Il est dangereux de rester ici. Nous aurons sans doute besoin de toute notre liberté. » Michu délia son cheval et pria la comtesse de le suivre. « Je n'irai pas plus loin, » dit Laurence, « sans que vous me donniez un gage de l'intérêt que vous me portez, car enfin vous êtes Michu. »« Mademoiselle, » répondit-il d'une voix douce, « mon rôle va vous être expliqué en deux mots. Je suis, à l'insu de messieurs de Simeuse, le gardien de leur fortune. J'ai reçu à cet égard des instructions de défunt leur père et de leur chère mère, ma protectrice. Aussi ai-je joué le rôle d'un jacobin enragé pour rendre service à mes jeunes maîtres. Malheureusement, j'ai commencé mon jeu trop tard et n'ai pu sauver les anciens. » Ici, la voix de Michu s'altéra. « Depuis la fuite des jeunes gens, je leur ai fait passer des sommes qui leur étaient nécessaires pour vivre honorablement. « Par la maison Breintmeyer de Strasbourg, » dit-elle. « Oui, mademoiselle, les correspondants de M. Girel de Troyes, un royaliste qui, pour sa fortune, a fait comme moi le jacobin. Le papier que votre fermier a ramassé un soir, à la sortie de Troyes, était relatif à cette affaire qui pouvait nous compromettre. Ma vie n'était plus à moi, mais à eux, vous comprenez. Je n'ai pu me rendre maître de Gondreville. Dans ma position, on m'aurait coupé le cou en me demandant où j'avais pris tant d'or. J'ai préféré racheter la terre un peu plus tard. » Mais ce scélérat de Marion était l'homme d'un autre scélérat, de Malin. Gondreville reviendra tout de même à ses maîtres. Cela me regarde. Il y a 4 heures, je tenais Malin au bout de mon fusil. Oh, il était fumé! Dame, une fois mort, on licitera Gondreville, on le vendra, et vous pouvez l'acheter. En cas de ma mort, ma femme vous aurait remis une lettre qui vous en eût donné les moyens. Mais ce brigand disait à son compère Grévin, une autre canaille, que messieurs de Simeuse conspiraient contre le premier consul, qu'ils étaient dans le pays et qu'il valait mieux les livrer et s'en débarrasser pour être tranquille à Gondreville. Or, comme j'avais vu venir 2 maîtres espions, j'ai désarmé ma carabine et je n'ai pas perdu de temps pour accourir ici, pensant que vous deviez savoir où et comment prévenir les jeunes gens. Voilà. « Vous êtes digne d'être noble, » dit Laurence en tendant sa main à Michu qui voulut se mettre à genoux pour baiser cette main. Laurence vit son mouvement, le prévint et lui dit « Debout, Michu !» d'un son de voix et avec un regard qui le rendirent en ce moment aussi heureux qu'il avait été malheureux depuis 12 ans. « Vous me récompensez comme si j'avais fait tout ce qui me reste à faire, » dit-il. « Les entendez-vous, les hussards de la guillotine ? Allons causer ailleurs. » Michu prit la bride de la jument en se mettant du côté par lequel la comtesse se présentait de dos et lui dit « Ne soyez occupé qu'à vous bien tenir, à frapper votre bête et à vous garantir la figure des branches d'arbres qui voudront vous la fouetter. » Puis il dirigea la jeune fille pendant une demi-heure au grand galop en faisant des détours, des retours, coupant son propre chemin à travers des clairières pour y perdre la trace, vers un endroit où il s'arrêta. « Je ne sais plus où je suis, moi qui connais la forêt aussi bien que vous la connaissez, » dit la comtesse en regardant autour d'elle. « Nous sommes au centre même, » répondit-il. « Nous avons 2 gendarmes après nous, mais nous sommes sauvés. » Le lieu pittoresque où le régisseur avait amené Laurence devait être si fatal aux principaux personnages de ce drame et à Michu lui-même que le devoir d'un historien est de le décrire. Ce paysage est d'ailleurs, comme on le verra, devenu célèbre dans les fastes judiciaires de l'Empire. La forêt de Nodème appartenait à un monastère dit de Notre-Dame. Ce monastère, pris, saccagé, démoli, disparut entièrement, moines et biens. La forêt, objet de convoitise, entra dans le domaine des comtes de Champagne, qui, plus tard, l'engagèrent et la laissèrent vendre. En 6 siècles, la nature couvrit les ruines avec son riche et puissant manteau vert et les effaça si bien que l'existence d'un des plus beaux couvents n'était plus indiquée que par une assez faible éminence, ombragée de beaux arbres et cerclée par d'épais buissons impénétrables que, depuis 1794, Michu s'était plu à épaissir en plantant de l'acacia épineux dans des intervalles dénués d'arbustes. Une mare se trouvait au pied de cette éminence et attestait une source perdue qui sans doute avait jadis déterminé l'assiette du monastère. Le possesseur des titres de la forêt de Nodem avait pu seul reconnaître l'étymologie de ce mot âgé de 8 siècles et découvrir qu'il y avait eu jadis un couvent au centre de la forêt. En entendant les premiers coups de tonnerre de la Révolution, le marquis de Simeuse, qu'une contestation avait obligé de recourir à ses titres, instruit de cette particularité par le hasard, se mit, dans une arrière-pensée assez facile à concevoir, à rechercher la place du monastère. Le garde, à qui la forêt était si connue, avait naturellement aidé son maître dans ce travail, et sa sagacité de forestier lui fit reconnaître la situation du monastère. En observant la direction des 5 principaux chemins de la forêt, dont plusieurs étaient effacés, il vit que tous aboutissaient au monticule et à la mare, où jadis on devait venir de Troyes, de la vallée d'Arcy, de celle de Cinq-Cygnes et de Bar-sur-Aube. Le marquis voulut sonder le monticule, mais il ne pouvait prendre pour cette opération que des gens étrangers au pays. Pressé par les circonstances, il abandonna ses recherches en laissant dans l'esprit de Michu l'idée que l'éminence cachait ou des trésors ou les fondations de l'abbaye. Michu continua cette œuvre archéologique. Il sentit le terrain sonner le creux, au niveau même de la mare, entre 2 arbres, au pied du seul point escarpé de l'éminence. Par une belle nuit, il vint, armé d'une pioche, et son travail mit à découvert une baie de cave où l'on descendait par des degrés en pierre. La mare, qui dans son endroit le plus creux, à 3 pieds de profondeur, forme une spatule dont le manche semble sortir de l'éminence et ferait croire qu'il sort de ce rocher factice une fontaine perdue par infiltration dans cette vaste forêt. Ce marécage, entouré d'arbres aquatiques, d'aulnes, de saules, de frênes, est le rendez-vous de sentiers, restes des routes anciennes et d'allées forestières aujourd'hui désertes. Cette eau, vive et qui paraît dormante, couverte de plantes à larges feuilles, de cressons, offre une nappe entièrement verte, à peine distinctible de ses bords, où croît une herbe fine et fournie. Elle est trop loin de toute habitation pour qu'aucune bête, autre que le fauve, vienne en profiter. Bien convaincu qu'il ne pouvait rien exister au-dessous de ce marais, et rebuté par les bords inaccessibles du monticule, les gardes particuliers ou les chasseurs n'avaient jamais visité, fouillé ni sondé ce coin qui appartenait à la plus vieille coupe de la forêt et que Michu réserva pour une futaie quand arriva son tour d'être exploité. Au bout de la cave se trouve un caveau voûté, propre et sain, tout en pierre de taille, du genre de ceux qu'on nommait l'inpas, le cachot des couvents. La salubrité de ce caveau, la conservation de ce reste d'escalier et de ce berceau, s'expliquait par la source que les démolisseurs avaient respectée et par une muraille vraisemblablement d'une grande épaisseur, en briques et en ciment semblable à celui des Romains, qui contenait les eaux supérieures. Michu couvrit de grosses pierres l'entrée de cette retraite. Puis, pour s'en approprier le secret et le rendre impénétrable, il s'imposa la loi de remonter l'éminence boisée et de descendre à la cave par l'escarpement au lieu d'y aborder par la mare. Au moment où les 2 fugitifs y arrivèrent, la lune jetait sa belle lueur d'argent aux cimes des arbres centenaires du monticule. Elle se jouait dans les magnifiques touffes des langues de bois diversement découpées par les chemins qui débouchaient là, les unes arrondies, les autres pointues, celles-ci terminées par un seul arbre, celles-là par un bosquet. De là, l'œil s'engageait irrésistiblement en de fuyantes perspectives, où les regards suivaient soit la rondeur d'un sentier, soit la vue sublime d'une longue allée de forêt, soit une muraille de verdure presque noire. La lumière filtrée à travers les branchages de ce carrefour faisait briller, entre l'éclair du cresson et les nénuphars, quelques diamants de cette eau tranquille et ignorée. Le cri des grenouilles troubla le profond silence de ce joli coin de forêt dont le parfum sauvage réveillait dans l'âme des idées de liberté. « Sommes-nous bien sauvés ?» dit la comtesse à Michu. « Oui, mademoiselle, mais nous avons chacun notre besogne. Allez attacher nos chevaux à des arbres en haut de cette petite colline et nouez-leur à chacun un mouchoir autour de la bouche, » dit-il en lui tendant sa cravate. Le mien et le vôtre sont intelligents, ils sauront qu'ils doivent se taire. Quand vous aurez fini, descendez droit au-dessus de l'eau par cet escarpement, ne vous laissez pas accrocher par votre amazone, vous me trouverez en bas. Pendant que la comtesse cachait les chevaux, les attachait et les bâillonnait, Michu débarrassa ses pierres et découvrit l'entrée du caveau. La comtesse, qui croyait savoir sa forêt, fut surprise au dernier point en se voyant sous un berceau de cave. Michu remit les pierres en voûte au-dessus de l'entrée avec une adresse de maçon. Quand il eut achevé, le bruit des chevaux et de la voix des gendarmes retentit dans le silence de la nuit. Mais il n'en bâtit pas moins tranquillement le briquet, alluma une petite branche de sapin et mena la comtesse dans l'impasse où se trouvait encore un bout de la chandelle qui lui avait servi à reconnaître ce caveau. La porte en fer et de plusieurs lignes d'épaisseur, mais percée en quelques endroits par la rouille, avait été remise en état par le garde et se fermait extérieurement avec des barres qui s'adaptaient de chaque côté dans des trous. La comtesse, morte de fatigue, s'assit sur un banc de pierre au-dessus duquel il existait encore un anneau scellé dans le mur. « Nous avons un salon pour causer, » dit Michu. « Maintenant, les gendarmes peuvent tourner tant qu'ils voudront, le pis de ce qui nous arriverait serait qu'ils prissent nos chevaux. » « Nous enlever nos chevaux, » dit Laurence, « ce serait tuer mes cousins et messieurs d'Auxerre. Voyons, que savez-vous ?» Michu raconta le peu qu'il avait surpris de la conversation entre Malin et Grévin. « Ils sont en route pour Paris, ils y entreront ce matin, » dit la comtesse quand il eut fini. « Perdu !» s'écria Michu. « Vous comprenez que les entrants et les sortants seront surveillés aux barrières. Malin a le plus grand intérêt à laisser mes maîtres se bien compromettre pour les tuer. » « Et moi qui ne sais rien du plan général de l'affaire !» s'écria Laurence. « Comment prévenir Georges, Rivière et Moreau? Où sont-ils? Enfin, ne songeons qu'à mes cousins et aux d'Auxerre. Rejoignez-les à tout prix. » « Le télégraphe va plus vite que les meilleurs chevaux, » dit Michu. « Et de tous les nobles fourrés dans cette conspiration, vos cousins seront les mieux traqués. Si je les retrouve, il faut les loger ici. Nous les y garderons jusqu'à la fin de l'affaire. » Leur pauvre père avait peut-être une vision en me mettant sur la piste de cette cachette. Il a pressenti que ses fils s'y sauveraient. Ma jument vient des écuries du comte d'Artois. Elle est née de son plus beau cheval anglais. Mais elle a fait 36 lieues. Elle mourrait sans vous avoir porté au but, dit-elle. Le mien est bon, dit Michu. Et si vous avez fait 36 lieues, je ne dois en avoir que 18 à faire. 23, dit-elle, car depuis 5 heures il marche. Vous les trouverez au-dessus de Lagny, à Couvray, d'où ils doivent au petit jour sortir déguisés en mariniers. Ils comptent entrer à Paris sur des bateaux. Voici, reprit-elle en ôtant de son doigt la moitié de l'alliance de sa mère, la seule chose à laquelle ils ajouteront foi, je leur ai donné l'autre moitié. Le garde de Couvray, le père d'un de leurs soldats, les cache cette nuit dans une baraque abandonnée par des charbonniers au milieu des bois. Ils sont 8 en tout. Messieurs d'Auxerre et 4 hommes sont avec mes cousins. À l'époque, les alliances étaient parfois faites de 2 fils entrecroisés. Mademoiselle, on ne courra pas après les soldats, ne nous occupons que de messieurs de Simeuse, et laissons les autres se sauver comme il leur plaira. N'est-ce pas assez que de leur crier casse-cou ? Abandonner les d'Auxerre ? Jamais, dit-elle, ils doivent périr ou se sauver tous ensemble. De petits gentilshommes ? Reprit Michu. Ils ne sont que chevaliers, répondit-elle, je le sais. Mais ils se sont alliés aux 5 cygnes et aux 6 meuses. Ramenez donc mes cousins et les d'Auxerre en tenant conseil avec eux sur les meilleurs moyens de gagner cette forêt. Les gendarmes y sont, les entendez-vous? Ils se consultent. Enfin, vous avez eu déjà 2 fois du bonheur ce soir. Allez, ramenez-les, cachez-les dans cette cave, ils y seront à l'abri de toute recherche. Je ne puis vous être bonne à rien, dit-elle avec rage. Je serai un phare qui éclairerait l'ennemi. La police n'imaginera jamais que mes parents puissent revenir dans la forêt en me voyant tranquille. Ainsi, toute la question consiste à trouver 5 bons chevaux pour venir, en 6 heures, de Lagny dans notre forêt, 5 chevaux à laisser morts dans un fourré. « Et de l'argent, » répondit Michu, qui réfléchissait profondément en écoutant la jeune comtesse. « J'ai donné 100 louis cette nuit à mes cousins. »« Je réponds d'eux, » s'écria Michu. « Une fois cachés, vous devrez vous priver de les voir. » Ma femme ou mon petit leur porteront à manger 2 fois la semaine. Mais comme je ne réponds pas de moi, sachez, en cas de malheur, mademoiselle, que la maîtresse poutre du grenier de mon pavillon a été percée avec une tarière. Dans le trou qui est bouché par une grosse cheville se trouve le plan d'un coin de la forêt. Les arbres auxquels vous verrez un point rouge sur le plan ont une marque noire au pied sur le terrain. Chacun de ces arbres est un indicateur. Le troisième chêne vieux, qui se trouve à gauche de chaque indicateur, recèle, à deux pieds en avant du tronc, des rouleaux de fer blanc enterrés à 7 pieds de profondeur qui contiennent chacun 100 000 francs en or. Ces 11 arbres, il n'y en a que 11, sont toute la fortune des cimeuses, maintenant que Gondreville leur a été pris. « La noblesse sera 100 ans à se remettre des coups qu'on lui a portés, » dit lentement Mademoiselle de Cinq-Cygnes. « Y a-t-il un mot d'ordre ?» demanda Michu. « France et Charles pour les soldats, Laurence et Louis pour messieurs d'Auxerre et de Cimeuse. Mon Dieu, les avoir revus hier pour la première fois depuis 11 ans et les savoir en danger de mort aujourd'hui, et quelle mort, Michu » dit-elle avec une expression de mélancolie. « Soyez aussi prudent pendant ces 15 heures que vous avez été grand et dévoué pendant ces 12 années. S'il arrivait malheur à mes cousins, je mourrais. Non, dit-elle, je vivrai assez pour tuer Bonaparte. Nous serons 2 pour ça le jour où tout sera perdu. » Laurence prit la rude main de Michu et la lui serra vivement à l'anglaise. Michu tira sa montre, il était minuit. « Sortons à tout prix, dit-il. Gare au gendarme qui me barrera le passage. Et vous, sans vous commander, madame la comtesse, retournez à Bride abattue à Cinq-Cygnes. Ils y sont, amusez-les. » Le trou débarrassé, Michu n'entendit plus rien. Il se jeta l'oreille à terre et se releva précipitamment. « Ils sont sur la lisière vers 3, dit-il. Je leur ferai la barbe. » Il aida la comtesse à sortir et replaça le tas de pierres. Quand il eut fini, il s'entendit appeler par la douce voix de Laurence qui voulut le voir à cheval avant de remonter sur le sien. L'homme rude avait les larmes aux yeux en échangeant un dernier regard avec sa jeune maîtresse, qui, elle, avait les yeux secs. « Amusons-les, il a raison !» se dit-elle quand elle n'entendit plus rien. Et elle s'élança vers Cinq-Cygnes au grand galop.